Bonjour à chacun, chacune. Bonne année, si je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire déjà. Bienvenue à chacun aussi, surtout si vous êtes peut-être nouveau. Bienvenue parmi nous. Et en effet, comme André vient de dire, on est en janvier. Et souvent, janvier, c'est un bon moment de faire un peu le bilan, non? Et même peut-être de revenir à l'essentiel. Allez, et comme peut-être vous savez bien, l'essentiel de la foi chrétienne, c'est la personne de Jésus. Il est au cœur de notre foi. Et je pense parfois on oublie l'impact extraordinaire de sa vie et à quel point d'avancer dans la vie chrétienne, il s'agit de quelque chose d'assez simple. C'est de connaître de plus en plus Jésus. Alors, est-ce que vous connaissez ce bonhomme? Non. Il est un théologien suisse. Et il y a une centaine d'années, et à la fin de sa vie, il a remarqué ceci par rapport à Jésus. Il a remarqué sur l'impact extraordinaire. Il dit ceci. Il a dit, sans armes, sans argent et sans armes, ce Jésus de Nazareth a vaincu plus d'hommes d'Alexandre, César, Mohammed et Napoléon réunis, sans avoir fait d'études supérieures et sans avoir acquis de connaissances particulières, il a projeté sur Dieu et sur l'homme plus de lumière que tous les philosophes et les savants réunis. Sans formule rhétorique, il a prononcé des paroles de vie comme personne avant lui ni personne après lui, et ces paroles ont produit des effets plus extraordinaires de tout orateur ou poète. Sans avoir écrit lui-même une seule ligne, il a donné matière à plus de sermons, de discours, de discussions, de doctrines, d'art et de louanges que toute la cour des grands hommes de l'Antiquité et de temps moderne. C'est vrai que Jésus-Christ a eu un impact juste extraordinaire sur notre vie, notre société, et depuis des siècles. Et pour revenir justement à l'essentiel, c'est de revenir finalement à Jésus et le comprendre plus. Alors notre théologien, est-ce que quelqu'un connaît celui-là? C'est notre théologien suisse. En fait, il s'appelle Adolf Schlatter. Et il a passé la plupart de sa carrière en Allemagne. Et en fait, il était un grand, grand spécialiste académique du Nouveau Testament. Il était très réputé. Il avait écrit plus de 300, entre 200 et 300 publications, des articles, des livres, des commentaires, etc. Et tout à la fin de sa vie, c'était dans les années 30. Et il voyait l'augment et la présence de la partie nazie. Il était pas mal troublé par la situation en Europe. Et à la fin de sa vie, il a écrit un dernier livre, juste avant sa mort. Et c'est le livre qu'il pensait que c'était la question pour lui plus importante. Parce qu'il voyait justement que Jésus était très populaire, que beaucoup de gens parlaient de Jésus. Et vous savez ce qu'il a écrit comme dernier livre de réflexion? Ça s'appelle « Kennen wir Jesus ?» Ou « Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus ?» Parce que lui, il constatait que Jésus était très populaire, beaucoup de gens en parlaient. Mais pour lui, il voyait la question de fond. Ce n'est pas si on capte que Jésus est populaire, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Et je pense, au début de 2020, on a le privilège de revenir à l'essentiel et dire, est-ce que je connais vraiment Jésus? Et cette année, est-ce que je peux avancer dans une vraie connaissance du vrai Jésus? Et pour ce faire, on va lancer une série sur l'évangile de Jean. Alors, ce qui est intéressant, parce que Jean était un très bon ami à Jésus, voire son meilleur ami, très proche de lui. Et tout à la fin de sa vie, il nous donne ses réflexions par rapport à qui est vrai Jésus et qu'est-ce que ça veut dire de le connaître vraiment. Donc, dans les prochaines quelques semaines, on ne va pas commencer la semaine prochaine, c'est la semaine après, on va réfléchir sur comment Jean, l'apôtre Jean, explique la vie de Jésus. Et puis, on dit que Jean, il est à la fois très simple, il utilise les idées très simples et à la fois très, très profond. Et je pense que Jésus est comme ça. À la fois, Jésus est assez simple à comprendre, mais à la fois, il est infiniment riche. Et si vous êtes là, et ça fait 40 ans que vous êtes là dans cette église, 40 ans que vous écoutez des prédications, il y a encore à découvrir si on est concentré sur Jésus. Et si vous êtes tout nouveau, vous connaissez très peu, très très peu, il y a beaucoup de choses pour vous aussi, parce que Jésus est l'essentiel. Et de comprendre Jésus, c'est de comprendre vraiment la foi chrétienne. Du coup, ça vous dit, donc, aujourd'hui, on va commencer par les premiers 18 versets de cette histoire. Donc, je vous invite à trouver dans vos Bibles Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Et ce que Jean va faire dans ces versets, il va nous donner son argument. Ça vous arrive quand vous êtes en voyage de feuilleter un peu les livres dans les librairies, peut-être à l'aéroport ou à la gare. Vous avez un peu de temps, donc vous passez dans la librairie et vous voyez tous les nouveaux livres. Et vous prenez un livre, peut-être c'est un livre sur la crise écologique ou comment élever les enfants qui sont sages ou comment, je ne sais pas, comme nouvelle alimentation, régime alimentaire. Vous voyez le titre. Et si ce titre vous parle, vous faites quoi? Vous allez prendre le livre et regarder peut-être le descriptif, non? Sur le dos. Et qu'est-ce qui fait ce descriptif? Il va donner un petit résumé qui intrigue, qui va poser l'argument. Et après, l'idée, c'est que vous lisiez le livre pour compléter, pour voir si ça tient. Et en fait, à l'époque, c'était écrit sur les rouleaux, et souvent, la première partie, c'était un peu cette descriptif qui va lancer l'argument. Et ici, Jean va nous lancer, il va présenter Jésus d'une manière assez extraordinaire, assez exceptionnelle. Et l'idée est que voilà son argument. Et maintenant, c'est à vous de lire le livre et de voir si ça tient. Donc voilà, c'est un descriptif de l'argument de l'histoire de Jean. Donc je vais lire. Jean 1, 1 à 18. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas accueilli. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, portant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrit, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Il y a beaucoup de choses dans ce prologue, cette introduction. Hop, désolé, j'ai tellement pris dans la lecture, j'ai oublié à avancer. Et du coup, dans les quelques minutes, j'aimerais voir trois idées simples mais profondes que Jean nous transmet par ce texte. Moi, je vais formuler en trois questions. Quelle est finalement la réalité ultime? Quelle est la réalité derrière toutes les autres choses? Qu'est-ce qui est suprême et ultime? Première question. Deuxième question, quel est le ultime sens à la vie? Quelle est la vraie vie selon Jésus, selon Jean? Et troisièmement, quel est le choix? Quelle est notre chose à faire plus importante? Et c'est des choses simples mais profondes, et Jean va poser le décor, et après, par la suite, on peut découvrir de plus en plus. Donc, quelle est la réalité ultime? Et là, on voit déjà dans le premier verset quand Jean dit « Au commencement, avant toute chose, au commencement, quelque chose existait déjà. » Alors, c'est intéressant parce qu'à l'époque, les philosophes grecs s'intéressaient pas mal à la question « Quelle est ultime ?» En fait, ils cherchaient un ordre, une harmonie, une structure dans le monde, dans la vie. Et il y avait un mot pour ça. Vous savez le mot qu'ils utilisaient pour cette logique derrière tout le reste ? Logos, c'est ça. Les Grecs parlaient du logos. Le logos, c'était l'expression ou quelque chose qui était suprême, ultime. Et de vivre une vie sage, c'était de vivre une vie qui conformait justement à cette réalité ultime. Et les Grecs pensaient que c'était une force ou une loi naturelle ou une structure à découvrir comme ça. Alors qu'est-ce que Jean dit ici ? Il dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit, au commencement, le logos existait. Voilà le logos. Elle existait, la logos, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, ça c'est extraordinaire. Quelle est la réalité ultime pour Jean? La réalité ultime est une personne. Dieu est personnel. On voit très bien ici. Dieu, pour avoir une parole, pour exprimer, il faut... C'est des choses que les personnes font. Et donc, Jean, d'une manière assez extraordinaire, il prend ce mot « logos » et il l'explique comme l'expression ou la parole de Dieu qui était avec Dieu et qui était Dieu dès le début. Avant toute autre chose, Dieu existait et Dieu est personnel. Et si Dieu est personnel, et si on veut découvrir qui il est, il faut que Dieu s'exprime. En fait, c'est comme ça avec une relation avec une personne. Alors, imaginez-vous une fille, une jeune fille, et puis un gars qui est sympa, vient vers elle et dit, ça te dit de sortir avec moi? Il est gentil, et du coup, elle dit oui, donc... Ils sortent dans un café et le gars dit « Je vais faire simple ici. En fait, tu n'as pas besoin de parler. J'ai tout ce qu'il faut. Je vais, avec mes observations, je suis quand même assez intelligent. Je n'ai pas besoin des mots. C'est compliqué, des discussions, des conversations. » Et il interdit à la fille de parler. Et la fille est là, un peu surprise. Hein. Et puis lui, il sort, il a des bouquins. La psychologie des filles célibataires en Europe, temps moderne. Même les grands spécialistes qui avaient écrit. Et puis, il y avait aussi encore quelques photos qu'il avait tirées de son compte Facebook, qu'il avait imprimées. Il est en train d'étudier ces choses. Eh bien, il va en plus loin. Il dit, en fait, je ne veux pas que tu parles, parce que dès que tu commences à parler, ça va venir très précis. Par exemple, si tu dis, je préfère les vacances à la plage que les vacances en montagne, ou que j'ai une famille, j'entends très bien avec mes parents, peut-être j'entends pas très bien, dit, ça rend des choses beaucoup tout carrées. Moi, je suis ouvert d'esprit. Moi, ce qui compte, c'est comment moi, je ressens tes qualités. Moi, je préfère, et d'avoir des idées comme ça, s'ils commencent à parler, ça va être très précis et clair, et ça va plus être, je ne vais pas pouvoir garder l'esprit ouvert. Parce que moi, je pense que ce qui compte, c'est comment moi, je ressens des choses, finalement. Alors, la fille fera quoi? Je pense une grosse claque, non? Ce sera la dernière fois. Hein. Pourquoi? Parce qu'une relation ne marche pas comme ça. Hein. Avec une personne, il faut que la personne, pour faire connaissance avec quelqu'un, il faut que la personne s'ouvre. Et il faut que la personne parle. Il faut une communication. Il faut des mots. Ce n'est pas juste avec les photos de Facebook. Ce n'est pas juste avec des sentiments qu'on peut ressentir. Et on le sait très bien avec les personnes, mais vous savez à quel point ce n'est pas toujours le cas dans notre société par rapport à Dieu. Si Dieu n'est pas personnel, si on est comme les Grecs, où Dieu est une force, où Dieu est juste une logique, où Dieu est juste un principe, bien sûr on peut le creuser, et bien sûr on peut débattre, et bien sûr on serait très très limité. Ce serait juste nos observations, nos sentiments, notre sagesse. Mais si Dieu est personnel, ça change tout. Ça veut dire qu'il faut que lui, il parle. Que si la réalité ultime est personnelle, et si on va en relation connectée à lui, il faut que lui prenne le pas. Il faut une parole. Et c'est pour ça que c'est essentiel de voir ici Dieu avait une parole. Dieu lui-même, et ce n'était pas juste des mots en air comme ça, ce n'est pas comme les mots humains, mais finalement c'était une personne, son fils. C'est Jésus est Dieu qui se révèle. Jésus est Dieu qui parle. Jésus est le langage finalement que Dieu a choisi pour communiquer vraiment qui il est. Et de voir là, ce qui est ultime selon la Bible, c'est de comprendre Jésus et de voir Jésus. Et peut-être, vous pouvez poser la question, mais concrètement, comment ça marche? Comment? Comment voir? Comment comprendre plus de Jésus? Et ici, tout de suite, Jean va nous aider. Parce qu'il il va parler d'un autre Jean, Jean-Baptiste. Il dit, Dieu avait envoyé des messagers comme des témoins. Vous avez en versets 7 et 6, il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, à cette parole, à Jésus, afin que tous croient par lui. Et du coup, Dieu nous a donné des témoins, des témoignages. C'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui parle de notre, non? C'est une expression. Même on fait des petits témoignages nous-mêmes tout le temps. Hein? Quand vous postez sur vos réseaux sociaux, vous postez une image sur Instagram ou vous mettez un post sur Facebook, c'est des choses qui témoignent, non? De toi. C'est pour ça que souvent on poste des jolies photos et pas les photos moches, parce qu'on veut des bons témoignages. Alors Dieu nous a envoyé des témoins par les prophètes et Jean, il est un prophète, un peu comme les prophètes dans l'Ancien Testament, donc il représente le lien entre la parole, entre la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament par les écrits. Et nous, il ne s'agit pas de sortir et écouter Jean-Baptiste, mais d'avoir la Bible qui est le témoignage pour nous aujourd'hui afin que nous puissions avoir accès et comprendre Jésus. Et cette année, l'appel ici, nous pouvons vraiment connaître ce qui est ultime, selon Jésus. Connaître ce qui est ultime, connaître le Dieu vivant, qui est assez extraordinaire, en lisant la Bible. Dans ce livre, on a accès à Dieu qui se révèle, qui est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on vous encourage ici de mettre à temps, de mettre comme priorité dans cette année, de passer du temps dans la Bible. Et Jonathan a bien lancé l'appel la semaine dernière. Là, juste une petite exhortation pratique. Souvent, ce n'est pas juste une question de mettre à trouver assez le temps, de trouver un café assez fort le matin pour ne pas être complètement endormi. C'est des choses pratiques aussi qui sont un défi de bien trouver le temps dans la Bible. Mais finalement, je pense que ce texte nous encourage a posé la question, comment je comprends la Bible? Est-ce que vous lisez des manuels d'utilisateur? Quand vous achetez un nouveau appareil, une machine à café, la machine à laver, qui lit les manuels? Très peu, quelques-uns. Alors, deuxième question, qui lit les manuels d'utilisateur régulièrement? Moi, j'avoue que je ne lis pas du tout, hein, ça rend moins fun, hein, parce que c'est le défi d'essayer de comprendre l'appareil. Je lis quasiment jamais, mais de temps en temps, peut-être la voiture, des choses comme ça, je vais consulter, mais c'est sûr que je ne lis pas régulièrement. Je ne prends pas du plaisir à trouver le manuel d'utilisateur pour ma voiture et lire pour le plaisir. Alors par contre, si vous avez un bon ami, il t'envoie des messages sur WhatsApp ou sur mail, là, est-ce que vous lisez? Tu vois le nom, tu dis, ah tiens, beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'un manuel n'est pas personnel. C'est juste comment faire fonctionner cette voiture, comment faire fonctionner cet appareil. La personne qui a écrit le manuel, c'est aucune importance. Par contre, un message est personnel, il y a une personne derrière. Et ce qui est extraordinaire, la Bible, elle est personnelle. Dieu veut vous parler. Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui se révèle. Et cette année, Dieu veut parler avec toi. Et il t'a donné notre parole. Et si on regarde, si on comprend la Bible comme une lettre d'amour, comme un message personnel qui vient de Dieu, ça change vraiment tout. Et ça change notre motivation à creuser, à être plus à l'écoute de sa parole. Donc, lisons la Bible comme un message personnel, parce que la réalité ultime est en une personne. Une personne qu'on peut connaître. Alors, ça nous emmène au deuxième point. Quel est le sens à la vie? Quel est le sens ultime à la vie? Et si on va un peu plus loin. Cette parole était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, tout de suite, j'en dis, finalement, cette parole a l'autorité d'expliquer le vrai sens à la vie. C'est une bonne question, mais je peux imaginer quelqu'un qui dit, mais qui peut répondre à cette question? On est tellement limité. Vous avez jamais remarqué à quel point plus les gens font des études, souvent, plus ils captent à quel point on connaît tellement peu. Plus qu'on est spécialisé dans quelque chose, plus on se rend compte, mais punaise, qui peut vraiment dire, voilà le sens à la vie, voilà ce qui est plus important. C'est finalement très, très orgueilleux de dire ça. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a tout créé, si qui était là, qui a tout fait, qui était là dès le commencement, avant le commencement, lui, il peut dire. Et c'est exactement ça. Il va continuer. En lui était la vie. En lui était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et plus tard, à la fin de sa vie, juste avant sa mort, Jésus va prier. Il va parler à Dieu comme une personne, parce qu'il est personnel. Il va dire ceci. Il prie, il parle à Dieu et dit, or la vie. La vie éternelle, la vraie vie, la vie qui compte, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, pour simplifier, hein, Jésus dit que le sens à la vie, la vraie vie, c'est d'être connecté, de partager, d'être en lien avec cette vie qui est en Dieu. Alors, mais c'est une réalité intéressante parce que souvent, la vie, c'est quelque chose que nous avons déjà. Hein? Non? Vous êtes en vie, on est en vie. Et ici, Jean dit, il y a une autre vie, une vie plus grande que juste de respirer, de manger, d'être en bonne santé, d'avoir des amitiés. C'est bel et bien la vie, c'est très bien, mais selon Jésus, c'est pas tout. Il y a une vie encore plus grande, plus importante, et c'est de partager cette vie que lui, il avait avec Dieu dès le commencement. Cette relation À la fin, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui était dans l'intimité avec le Père l'a fait connaître. Il y a cette vie qui est relationnelle, connectée à Dieu lui-même. Mon frère, je me souviens, mon frère aîné, quand il avait 16 ans, il a obtenu son permis de conduire. Et c'était en automne, je pense que c'était vers novembre. Et du coup, vous savez ce qu'il avait demandé comme cadeau? Je pense que tous les enfants demandent ça comme cadeau pour Noël. En décembre, une voiture. Bon, c'est une bonne blague parce qu'il savait très bien que mon père n'avait jamais donné une voiture. Il a dit, j'aimerais bien avoir une voiture pour Noël. Il a eu son permis et voilà, je vais demander une voiture. En fait, demander un Mustang en plus, hein, une voiture de sport, etc. Et vous savez quoi? Le jour de Noël, on descend et vous savez ce qu'on a vu sous le sapin? Que mon père avait répondu. Il avait donné à mon frère une voiture, sauf c'était plutôt une voiture comme ça. Vous avez des petits modèles que tu peux fabriquer, c'est un peu de cette taille. Et je dois dire, mon frère était un peu déçu. Il était, voilà votre voiture. Mais heureusement, il a gardé la vie. Je pense que c'était une vraie voiture. Il aurait roulé beaucoup trop vite. Mais imaginons l'inverse. Imaginez un jeune qui aime tellement des modèles et qui est tellement préoccupé avec un modèle et le père veut donner une vraie voiture. Mais il est trop pris, il est trop occupé, il pense juste qu'au modèle, qui est quand même sympa, hein. Un modèle est bien, et puis ça représente quelque chose, mais qui n'a jamais posé la question, peut-être qu'il y a quand même quelque chose encore plus grand derrière. Et nous vivons une vie, on a tellement de bénédictions aujourd'hui, de progresser dans la vie humaine comme ça, d'être en bonne santé, d'avoir des amitiés, d'avoir un bon travail, c'est des bonnes choses. Mais Dieu est très clair, ça c'est pas tout. Et souvent on est tellement préoccupé avec le modèle qu'on passe à côté de quelque chose tellement plus grand. Jésus est clair, il parle d'une vie éternelle. Que nous étions créés pour une vie à jamais, une vie où on peut connaître Dieu et être connu par Dieu et de vivre avec lui dans sa joie, dans son amour. Et ça, c'est une vie beaucoup plus grande. Mais cette vie, elle explique tout le reste. C'est ce que je voulais dire. En elle avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Quand Jésus demande d'être en relation avec lui, ce n'est pas une relation hyper méga exclusive où tout le reste doit passer à côté et n'a aucun sens. Non, mais c'est de comprendre Dieu, de vivre en relation avec lui, c'est comme une lumière qui nous aide à voir le reste, qui met toutes les choses un peu dans leur place. Et Jésus parle très concrètement de cette vie. C'est même pour ça que Blaise Pascal, qui était un mathématicien français, il a dit ceci. Il dit, non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort que par Jésus. C'est quand même extraordinaire de dire ça. Mais il a capté que cette vie en Jésus, cette vie d'être connecté à Dieu, c'est comme une lumière qui donne un sens au reste. Alors, c'est bien beau tout ça. Ok, Jésus vit, mais vous avez remarqué dans ce passage que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a des ténèbres. Ça. La vie est venue, mais les ténèbres... Verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Ou, si on avance, verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et en fait, Jésus vient comme cette lumière, mais ce n'est pas toujours simple de vivre et accepter cette lumière. Et ici, si on saute à chapitre 3, Jésus va expliquer en plus, il dit, et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, Pourquoi? Pourquoi on préférait les ténèbres? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Vous vous souvenez quand vous étiez tout petit, est-ce que vous avez eu peur du noir? Ça fait un moment pour certains d'entre nous, mais je me souviens, quand j'étais tout petit, j'avais un peu peur du noir. Juste quand on fermait la porte de ma chambre et il faisait tout noir. Tu ne voyais plus rien, j'avais un peu peur. Et du coup, je me suis demandé à mes parents d'ouvrir un peu la porte. Mais je me souviens plusieurs fois, je ne voulais pas que la porte soit trop ouverte. Pourquoi? Trop de lumière, ça montrait à ma maman l'état de ma chambre, qui n'était pas toujours très bien rangée. Et du coup, j'aimais bien un tout petit peu de lumière pour me rassurer, mais pas beaucoup de lumière pour que c'est pas très évident, c'était pas très clair que ma chambre avait besoin d'être beaucoup mieux rangée. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, on aime bien vivre un peu comme ça. On veut un peu de lumière de Jésus. Oui, c'est bien, il nous donne une espérance, un sens à la vie, connaître Dieu, c'est très bien. Mais, quand Jésus débarque, il dit, moi je suis lumière. Et vous savez, quand il y a beaucoup de lumière, parfois ma maman, elle ouvre la porte, et puis il dit, c'est pas très rangé. Et tu sais ce que je faisais après? Paf, elle va carrément mettre la lumière dans la chambre. Et boum, là c'était très clair. Ah, David, il faut que tu ranges ta chambre. Sors du lit, et voilà, là, range ta chambre, et après... Et Jésus fait ça. Hein. Et ça peut faire peur. C'est exactement ce qu'il dit ici. De peur que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Vous savez, de vivre plus la vraie vie, c'est de venir à Jésus et prendre le courage qu'il va forcément briller sa lumière dans nos vies. Et très, ça va arriver qu'on va avoir des choses que nous devons changer. D'ailleurs, les relations sont comme ça. Hein. Les personnes avec qui vous avez une proche relation, si la personne est honnête et ose parler, la personne peut dire des choses sur toi. Parce que la personne te connaît, la personne voit des choses. Et Dieu est pareil. Dieu veut vous donner plus de sa vie cette année. Mais à la fois, Dieu va mettre plus de lumière sur les choses à changer. Et il va dévoiler les choses. Et je pense que ça, c'est une preuve. Est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? Est-ce que nous vivons vraiment la vie qu'il veut nous donner? Est-ce qu'il y a des choses qui sont éclairées dans votre vie par Jésus? Et c'est ça, je pense, avec l'évangile de Jean, de suivre. Et comment Jésus, il va à la fois être vrai et à la fois plein de grâce. En fait, c'est exactement ça, à la fin de ce passage, Jean dit... Nous avons vu sa gloire. Il était plein de grâce et de vérité. Jean, ça, c'est la bonne nouvelle avec cette lumière de Jésus. Jésus est vrai. Il n'est pas le gars qui va nous dire hein, tout ce qu'on veut attendre, tout ce qui est bien, tout ce qui est gentil, ça va, toute espérance, joie, amour, c'est génial. Non, Jésus partage la vérité. Dieu est une personne... Dieu a une volonté pour nous. Dieu va dire des choses. Dieu va mettre le droit sur les choses qu'il faut changer dans nos vies. Il est vrai. Mais en même temps, Jésus est plein de grâce. C'est-à-dire de nous donner plus qu'on mérite. Il nous regarde avec amour. Il nous pardonne. Il est doux avec nous. Et c'est cette lumière, si cette lumière est à la fois vérité et grâce, on peut vraiment cheminer, on peut... avancer dans cette vie qu'il nous donne, ce vrai sens à la vie, de le connaître, de connaître Dieu et de partager sa vie. Alors, troisième chose, et rapidement, quel est le choix ultime? Et on voit au cœur de ce passage, versets 11 à 13, elle est venue vers les siens, là ici du peuple juif, les siens n'ont pas accueilli. Beaucoup ne l'ont pas accepté, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni d'une volonté du mari, mais ils sont nés de Dieu. Alors il y a un peu deux côtés, hein. Il y a une réalité, deux côtés, côté humain, côté divin de Dieu. Côté humain, c'est quoi? à tout ce qu'ils ont accepté. Quelle simplicité, hein? C'est pas de plus travailler, c'est pas d'avoir toutes les connaissances dans le monde, c'est pas de œuvrer à tout ce qu'ils ont accepté, qui ont cru dans son nom. C'est d'avoir une vraie question de confiance, de faire confiance à cette personne, de l'accepter, de dire « Ok, Jésus, c'est toi la lumière, c'est toi la vie, j'accepte, viens, remplis ma vie. » Et de lui faire confiance, de se reposer en lui. Là, j'ai fait un camp de ski entre Noël et Nouvel An. Et j'étais avec un groupe des jeunes. Et du coup, ils sont partis sur une piste avec des tire-fesses. J'ai dit, oh, j'aime pas les tire-fesses, c'est pénible ça. Et il y avait toute une longue queue en plus. J'ai dit, ok. Et on était dans la queue, et les jeunes discutaient entre eux, ils faisaient une espèce de pari. Il fallait choisir un chiffre entre 1 et 30, deux personnes, comme ça. Et si vous choisissez le même chiffre, il fallait essayer de remonter le tire-fesse sur un pied. Ils ont dit, David, à toi. Heureusement, on n'est pas tombé sur le même chiffre. Donc j'étais là, j'étais sur le tire-fesse, et je dis, mais est-ce que c'est difficile ça ou pas? Mauvaise réflexion. J'ai commencé à lever un pied. Hein. J'étais sur le tire-fesse, j'étais la moitié. Et je voulais pas du tout refaire ce truc. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est difficile. Hein? J'étais là, wow, j'ai tombé. J'ai dit, ah, j'ai dû retourner, refaire toute cette queue et puis remonter après. Et la deuxième fois, j'ai dit, alors là, David, tu vas plus faire des bêtises, tu vas plus essayer de mettre un pied ou ça. Tu vas prendre et tu vas faire confiance, tu vas te reposer dans ce tire-fesse. Et je pense que c'est pas mal comme image de la foi que Dieu veut dans nos vies. Parfois, ça arrive à nous. On est tenté de faire avec un pied. C'est très bien, Jésus. C'est très bien ce que tu fais. Tu viens vers nous. Tu dis, moi, je vous donne ce droit de venir et participer à ma vie. En fait, Jésus, finalement, il est comme un tire-fesse. Il va nous tirer vers Dieu. Il va nous tirer vers le ciel. Il va nous tirer vers la vraie vie. Et très souvent, on est tenté de dire, ah tiens, je vais quand même montrer en même temps que je peux faire un peu moi-même. En fait, c'est pour ça que je suis tombé, hein, parce que j'ai commencé à mettre beaucoup de mon poids sur moi-même et beaucoup moins sur la barre. Et j'ai perdu tout l'équilibre. Et au fond, je ne sais pas ce que vous vivez maintenant. Mais je suis sûr que c'est là, il y a des choses, hein, souvent où on est tenté à commencer à mettre le poids sur nous-mêmes, gérer nous-mêmes, dire « Jésus, c'est très bien, mais au fond de moi, je dois être au contrôle de ça. Je dois gérer. » Et vous savez, c'est très risqué. On perd l'équilibre très, très vite. Et Jésus dit tout simplement, il faut lui faire confiance, de l'accepter et de reposer en lui. Après, j'étais là, j'étais quand même tranquille, hein. Parce que le poids n'était pas beaucoup moins sur mes pieds. Et j'étais beaucoup plus équilibré et stable. Et ici, Dieu nous demande quelque chose qui est à la fois simple, mais à la fois compliqué. De pleinement lui faire confiance. De prendre Christ et de reposer en lui. Ça, c'est le côté humain. Et c'est quoi le côté divin? À ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et quand on arrive à ce moment de faire confiance à Dieu, on trouve que c'était un miracle de Dieu, un miracle de vie, de pouvoir connaître Dieu, de vivre comme ça, comme son enfant. Qui est extraordinaire. Comment ça se fait que Dieu nous donne le droit comme ça, simplement, d'être son enfant? Ben ça, si vous connaissez l'histoire, parce que Jésus lui-même, qui était la parole éternelle, est devenu enfant. Il est devenu humain. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre. Et à la croix, il a porté tous nos fardeaux, tous nos péchés, toutes nos fautes. Lui, il était rejeté, finalement, comme enfant de Dieu, afin que nous puissions être adoptés. Dieu a prouvé son amour envers nous. Et par cet amour, par cette grâce, nous pouvons savoir que nous sommes adoptés, que nous avons Dieu, pas juste comme une force, pas juste comme quelqu'un lointain, mais comme notre Père qui prend soin de nous. La confiance. Est-ce que vous avez déjà fait ce pont? C'est vers Zermatt, en Suisse. C'est le pont piéton plus long du monde. J'ai fait cet été. Et je dois dire, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Ce pont, on faisait une randonnée là-bas. Il était très lent. Et d'une certaine façon, ça fait un peu peur parce que surtout le jour où on était là, on ne voyait même pas l'autre côté. Il y avait des nuages comme ça. Et dans un premier temps, on a regardé le pont. On a contemplé le pont. Est-ce que ce truc est solide? Et tu vois tout de suite qu'il est très bien fait. Il est très solide, il est très costaud. Et après, on a dit, OK, on va faire confiance à ce pont. On a commencé. Et après, on était là, émerveillés, et on a traversé avec mon pote. On a vraiment passé, c'était vraiment sympa d'être là, dans les nuages, les ponts, de chaque fois, on ne voyait même pas le côté. C'était génial. L'évangile de Jean, à la fin de l'évangile, Jean nous dit ici, ce qu'il partage dans son histoire de Jésus, mais ceux-ci, ces choses qu'il avait écrites, ont été décrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je pense que la vie d'avancer cette année, d'avancer dans la vie chrétienne, c'est un peu ces trois choses. De contempler. D'ailleurs, dans chapitre 1, il a dit, nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et vérité. De voir Jésus, de contempler qui il est. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? C'est ça que Jean veut nous aider, à contempler Jésus. Dans un deuxième temps, de croire, de vraiment avancer, de prendre le pas. Même, peut-être si on ne peut pas voir l'arrivée, hein, comme sur le pont. Mais de dire, j'avance, oh là, j'avance parce que je sais qu'il est solide. Croire est afin que vous ayez la vie en son nom. Et dernièrement, de vivre parce qu'on a cette confiance. De voir des choses changer dans nos vies, de vivre, de profiter, de vivre pleinement cette relation avec Dieu. Et du coup, j'aimerais bien qu'on termine avec un petit moment de prière. Et peut-être que vous pouvez vous poser la question, où en êtes-vous? Est-ce qu'il faut plus contempler? Est-ce que vous connaissez vraiment Jésus? Est-ce que cette question de Schlatter, elle est pour nous aussi, hein? Connaissons-nous vraiment Jésus? Est-ce que nous passons assez de temps à le contempler? Qu'il est vraiment? Oui, Jésus est populaire, il va toujours être populaire. Est-ce qu'on le connaît vraiment? Il faut le contempler. Après, dans un temps, peut-être que vous connaissez Jésus, et là, on va demander de lui faire confiance dans certains choix dans votre vie. Peut-être une situation difficile, une épreuve, un deuil, une difficulté, un choix de vie, un choix d'avenir. Là, maintenant, on peut prier, Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Et puis, dernièrement, de vivre. Est-ce que vous savez que vous êtes enfant de Dieu? Ça change tellement de choses, de savoir, d'avoir cette confiance, d'avoir cette rassurance, de dire, OK, j'ai un père maintenant, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et de vivre, d'agir, d'aller, parce que tout ce qui est plus important est déjà réglé. Du coup, je vais commencer ce moment de prière, et après on va laisser quelques minutes, ça peut être des minutes en silence, ou si vous voulez, vous pouvez prier à haute voix, on va avoir un moment de prière libre comme ça, et après on va poursuivre avec un chant. Prions. Seigneur, merci tellement pour le fait que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui est personnel et tu nous aimes et tu veux une relation avec nous. Seigneur, tu connais chaque situation. Et je prie afin que par ton esprit et par ta parole, tu puisses nous aider à vivre pleinement, avoir plus cette vie cette année. Seigneur, je pense qu'on peut tous cheminer, on peut tous vivre plus cette plénitude de grâce et de vérité, cette plénitude de vie que nous avons en toi. Seigneur, aide-nous et bénis-nous pour la gloire de Jésus. Amen.